La ville de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a organisé le 20 novembre 2024 les rencontres de l'éducation artistique et culturelle qui ont rassemblé plus de 300 professionnels, enseignants et intervenants culturels. L'occasion pour Cadécole de s'intéresser aux enjeux de l'éducation artistique et culturelle, donnant la parole aux professionnels impliqués. Dans cet épisode, Marie-Christine Bordeaux, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes, présente les piliers de l'éducation artistique et culturelle.
J'ai fait partie des gens qui ont mis en place l'éducation artistique et culturelle dans les années 80. Et il faut le dire très honnêtement, c'était l'éducation artistique contre les enseignements artistiques. Il y avait l'idée qu'il fallait construire un rapport à l'art et à la culture autrement, qui engageait beaucoup plus la pratique, le corps, ce que Julien parlait d'appropriation tout à l'heure, dans des logiques d'émancipation, et donc de faire rentrer l'art et la culture dans l'école, mais sous une autre forme que celle des enseignements artistiques obligatoires. Puis n'oublions pas qu'il y a des enseignements de l'art et de la culture ailleurs qu'à l'école, et donc il y a les enseignements artistiques spécialisés dans les conservatoires, les écoles de musique, les activités périscolaires, les clubs volontaires. Moi, je suis une enfant des clubs volontaires dans les établissements scolaires. C'est là que j'ai fait mon EAC. Et puis, aujourd'hui, on s'entend pour dire que tout ça, c'est de l'éducation artistique. Mais ça n'était pas le cas jusqu'à il y a encore quelques années. Et je me rappelle que, par exemple, le ministère de la Culture refusait de reconnaître les chorales scolaires comme participants de l'éducation artistique et culturelle. Pourquoi ? Parce que les chorales scolaires, c'est très relié à une pratique en amateur qui est très très forte et que le ministère de la Culture n'avait pas dans son périmètre les pratiques en amateur. Et puis, on n'a pas parlé, évidemment, du temps non scolaire, c'est-à-dire du temps de loisirs socioculturels. Donc, normalement, l'éducation artistique, c'est dans tout ce périmètre-là qui est assez large. L'expression éducation artistique elle-même, elle est relativement ancienne, mais elle avait disparu. À un moment donné, dans les années 70, le ministère de l'Éducation s'implique dans l'éducation artistique. Il ne l'appelle pas éducation artistique, justement parce qu'il ne veut pas que ce soit dans les enseignements, et ça s'appelle action culturelle en milieu scolaire. On ne saurait mieux dire qu'à ce moment-là, on demande à l'art et à la culture de changer l'école, de bousculer l'école, et surtout d'introduire dans l'école les ferments d'une éducation nouvelle, en particulier par l'ouverture de l'école sur l'extérieur, sur la société, le fait de pouvoir mettre les enfants en contact avec des personnes extérieures au personnel scolaire, etc. Et à cette époque-là, l'éducation artistique, c'est un sujet au milieu d'un sujet beaucoup plus vaste, qui est celui de l'éducation permanente de chacun tout au long de la vie. Et lorsque l'éducation artistique est promue à la fin des années 60, il y a une définition de la culture qui est beaucoup moins crispée qu'elle n'a pu l'être à un moment donné. La culture, c'est les arts, bien sûr, ce sont les institutions culturelles, mais c'est aussi les médias, la télévision, la presse, etc. Donc, au fond, l'éducation artistique, c'est une familiarisation avec un environnement culturel, artistique, médiatique, et il y a évidemment quelque chose de très fort autour du partage de la pratique, le partage des langages de l'art. Aujourd'hui, l'éducation artistique, et on n'y a pas échappé ce matin, est très souvent synonyme de la présence d'artistes à l'école et de la relation artiste-enseignant, comme si cette relation artiste-enseignant épuisait tous les possibles de la présence des arts et de la culture dans l'école et de la relation entre l'école, l'art et la culture. Autour de l'éducation artistique, il y a un phénomène assez curieux, à la fois un très fort consensus qui peut être contre l'éducation à l'art et à la culture. Personne, du moment que ça ne prend pas la place des mathématiques et des apprentissages fondamentaux, évidemment, mais on voit que dans la plupart des pays du monde, il y a une éducation artistique. Mais que dans la plupart des pays, dans la plupart des cas, ce sont des enseignements, et en général des enseignements de la musique et des arts plastiques. Au fond, on va retrouver dans beaucoup de pays du monde le même modèle. Eh bien, dès l'origine, il y a des malentendus, il y a des tensions. Les malentendus sont nombreux, les tensions sont importantes. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'apprentissage, de techniques d'expression ? Est-ce qu'il s'agit de familiarisation avec les langages de l'art ? Ou est-ce qu'il s'agit de connaissances sur l'art et sur la culture ? Ou bien est-ce qu'il s'agit de renforcer des compétences générales, hein, les soft skills, des compétences, par exemple, scolaires, des compétences sociales, par le biais de l'art et de la culture. Dans la plupart des argumentaires qui sont publiés par les acteurs de l'EAC, donc les acteurs de l'EAC, c'est les ministères, les rectorats, les DRAC, la ville de la Courneuve, etc., hein, on voit que ces trois dimensions sont présentes simultanément, mais en fait, plus vous avez de dimensions et plus vous avez d'objectifs, plus il est difficile de les accomplir. Alors les voilà, ces fameux trois piliers. Donc le premier pôle, c'est celui de la fréquentation des œuvres, que j'appelle voir, mais voir, entendre, visiter. Hein. Le deuxième pôle, faire, la pratique personnelle dans un cadre collectif. Puis le troisième pôle, aujourd'hui, on l'appelle connaissance. Moi, je préfère l'appeler interprétation, parce que pour moi, c'est le pôle où on va prendre un peu de recul par rapport à l'expérience et où on va exercer son jugement critique. Si on prend trois notions ou trois concepts, hein, selon les cas, on voit que ces trois piliers sont un très, très beau schéma de médiation et qui réconcilie trois approches, hein, des arts et de la culture dans les politiques publiques en France. Prenons la notion de pratique. Donc, on voit que, voilà, y a une pratique culturelle, hein, pratique de spectateur, pratique de visiteur. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Quand on voit le pôle du faire, c'est bien la pratique d'acteur. Alors, pas acteur au sens de comédien, mais acteur au sens d'acteur de l'art et de la culture, faire soi-même. Et la troisième pratique, elle est intéressante, je l'appelle la pratique du sujet de l'énonciation. C'est dit de manière un peu complexe, mais ça veut dire qu'on devient l'auteur de son expérience. Ce n'est pas une expérience qu'on vous a imposée, c'est une expérience qu'on s'approprie et on va y attribuer soi-même du sens. Et pour ça, il faut un petit peu de distanciation. Si on prend le concept d'expérience, c'est très intéressant parce qu'on voit il y a trois types d'expériences, il y en a d'autres, hein, mais je pointe ces trois-là. Expérience esthétique, expérience artistique et expérience critique. Pourquoi je fais une distinction entre esthétique et artistique ? En fait, souvent, on associe l'adjectif esthétique ou le substantif esthétique à la question du beau. Moi, je la relis aux travaux de John Dewey, c'est-à-dire l'art comme expérience et l'idée que dans l'art et dans la culture, on fait une certaine expérience des choses et qu'on est dans un certain type d'attention aux choses, d'attention au monde. Et donc, il ne s'agit pas de l'expérience du beau, il s'agit de l'expérience que l'on fait dans des moments qui sont des moments importants, porteurs de sens, dans lesquels on va s'investir. Et l'expérience dont on parle, dit oui, c'est une expérience qui aspire, hein, tout l'individu, même si elle est portée par l'individu. Et l'expérience artistique, c'est tout à fait autre chose, c'est la confrontation personnelle à l'élaboration d'une forme. Cette difficulté de partir d'une idée, d'une impression, d'une volonté, et en faire une chose concrète et une chose qui peut entrer en communication avec ce qu'on va appeler un public, en tout cas les personnes qui à ce moment-là forment le public. Et l'expérience critique, alors c'est une expérience qu'on fait tout le temps quand on travaille dans la culture, qu'on ne fait pas assez quand on ne travaille pas dans la culture, qui est d'être capable de dire non seulement c'est bien, c'est pas bien, c'est bien fait, c'est pas bien fait, mais aussi de se demander quel est le sens de ce qui a été fait. Et si on prend le concept de médiation, alors là, on voit vraiment l'intérêt de ce référentiel en trois points de l'éducation artistique, puisque vous avez dans la première colonne la doctrine de Malraux pour le ministère de la Culture. Hein, c'est le contact avec les œuvres qui va provoquer des changements chez l'individu. Malraux, ou en tout cas son entourage, croyait à la force communicationnelle des œuvres. Je dis bien croyait parce que c'est une croyance et rien d'autre. Et donc, c'est l'idée de la médiation par l'art lui-même et par le contact avec l'art. Et quand vous voyez la colonne du fer, ben vous êtes dans une autre doctrine, une autre tradition socioculturelle. On ne va pas aller voir du théâtre, on va faire du théâtre. C'est l'expérience de l'appropriation des langages de l'art par tout un chacun. Et si vous regardez le troisième pôle, celui de l'interprétation, eh bien là, c'est une autre médiation, c'est une médiation réflexive, distanciée, par les savoirs, par les références culturelles, par l'activité discursive, et c'est tout le sens des projets qui vont aboutir à une réalisation présenter en public, c'est non seulement faire, mais être capable de communiquer ce faire et de communiquer l'expérience du faire. Donc, on a, et là, c'est traditionnellement, dans notre société, c'est le monde de l'éducation, le monde de l'université qui assure cette fonction. Et on voit que l'éducation artistique, finalement, tricote des fonctions culturelles qui, du fait des politiques particulières à la France, ont été séparées et attribuées d'ailleurs à des ministères différents. L'éducation artistique fait partie des éducations A. Hein. S'il y en a qui sont familiers de cette notion, vous savez que ça regroupe l'éducation à la santé, à la sécurité, à la citoyenneté, etc. Il y a beaucoup d'éducations A hein, et elles se sont beaucoup développées depuis un certain temps. Ce qui va distinguer, alors pas de manière absolue, mais quand même ça distingue l'éducation artistique, c'est que c'est une éducation à et une éducation par. Alors les trois piliers, donc, qu'on vous présente comme aussi immuables et éternels que la Sainte Trinité, hein, et c'est vraiment pas, ça n'a rien d'immuable, j'ai fait un travail systématique pour repérer la manière dont sont dénommés ces trois piliers dans les textes officiels sur l'éducation artistique. Ça, vous voyez, c'est le côté très, très ingrat du travail du chercheur. Je peux vous assurer que ce n'est pas amusant du tout à faire. Le résultat est amusant, par contre. On voit que sur le premier pilier, en gros, tout le monde dit la même chose. On peut prendre n'importe quel type de texte officiel, n'importe quelle année, on est d'accord. Sur le deuxième pilier, en gros, on est d'accord. Sur le troisième pilier, alors là, c'est un peu tout. Et parfois, c'est n'importe quoi. Donc, par exemple, sur un site qui a disparu aujourd'hui, approche analytique de l'appropriation des œuvres, sur le document d'accompagnement du plan de 5 ans, publié en 2001, analyse critique, réinvestissement pédagogique, sur la circulaire conjointe de 2005, analyse et mise en relation avec les autres champs du savoir. Ça, j'aime assez cette définition-là. Et puis, on a envie de dire pourquoi. Circulaire sur le parcours de 2013, investigation. On voit bien que ce troisième pôle, qui est le pôle de la réflexivité, de la médiation par les savoirs et par les références culturelles, est celui qui est le moins pensé dans les textes officiels. Ça ne veut pas dire que vous ne le pensez pas sur le terrain, mais ça veut dire que vous n'allez pas être très aidé si vous lisez les textes officiels pour avancer. Alors, ce référentiel aussi, qu'on présente comme ayant existé depuis toujours, il a connu une fortune diverse. Alors, par exemple, en 2003, une circulaire qui n'a pas duré longtemps, a été très vite remplacée par la circulaire de 2005, mais on avait un autre trinôme, faire, savoir et savoir-faire. Et finalement, si ces gens-là avaient gagné, aujourd'hui, je vous dirais que le trépied de l'éducation artistique, c'est ça. Et puis, il arrive des ovnis, et on ne sait pas où les mettre. Du coup, on les met nulle part. Hein. Par exemple, la création d'un enseignement obligatoire de l'histoire des arts en 2008, hein, avec validation au niveau du brevet, en tout cas à l'époque. Hein. Donc, c'est un enseignement, mais c'est un enseignement non disciplinaire. C'est aussi quelque chose que l'on peut réaliser en partenariat, mais le partenariat n'est pas obligatoire. Et c'est aussi un dispositif qui n'implique pas nécessairement de la pratique. Pour toutes ces raisons, l'instauration d'un enseignement de l'histoire des arts, que personnellement je trouve être plutôt un progrès hein, pour l'éducation artistique, a été unanimement décriée et par les syndicats d'enseignants et par le monde culturel, avec une rhétorique propre à la culture que l'on connaît bien, mais les savoirs c'est des séchants, les savoirs c'est académique et des discours qui relève plutôt d'une forme de vitalisme culturel. Ce qui est important, c'est d'éprouver, de sentir, etc., l'expérience, etc., comme si on pouvait établir non seulement une frontière, mais une opposition entre savoir et expérimenter. Hein, on le sait les uns et les autres, pour avoir vécu des situations de médiation culturelle, comment l'expérience, qui peut paraître quelque chose de complètement spontané et naturel, elle est en permanence informée par la culture. Et donc, si vous avez plus de références culturelles, votre expérience va être plus informée. Elle ne sera pas meilleure, mais elle sera plus développée, elle sera plus riche, en tout cas plus riche en références multiples. Donc, on voit que ce n'est pas si simple. Les trois piliers ne règlent pas tous les problèmes. Bien qu'il comporte des aspects très intéressants. Par exemple, si vous regardez les trois piliers, nulle part il est sous-entendu qui doit s'occuper du troisième pilier. hein, ou du deuxième, ou du premier. Donc, il ne présuppose aucune spécialisation des acteurs. On ne peut pas dire ce pilier-là, c'est les enseignants, ou ce pilier-là, c'est les artistes. Pourtant, dans les faits, et notamment sur le pilier du faire, hein, le deuxième, on voit que ce sont les artistes ou les professionnels de la culture qui le prennent davantage en charge. Mais rien ne le présupposait dans la définition des trois piliers. Ces trois piliers aussi permettent une transversalité entre des pratiques sociales éclatées, hein, du fait qu'en France, on a une politique culturelle très ambitieuse, mais qui a évacué toute la dimension socio-culturelle de l'action publique, qui s'est tenue aussi très, très à l'écart de l'éducation populaire. Il y a des problèmes dont certains sont très concrets, très pratiques, et ça a été exprimé ce matin, sur les différents pôles. Le premier pôle est de plus en plus difficile, pour des raisons budgétaires, des raisons de sécurité aussi. Hein, j'entendais des professeurs des écoles qui disaient « bah oui, mais emmener des enfants jeunes dans le métro, c'est quand même non seulement une aventure, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Hein. » Et donc, on voit que le premier pôle, qui semble a priori le plus évident, est parfois le plus difficile à mettre en œuvre. Le second pôle est souvent surreprésenté en termes de pourcentage dans les projets d'éducation artistique qui peuvent être parfois complètement aspirés, hein, par ce pôle de la pratique et de l'appropriation des langages de l'art et des formes d'expression culturelle. Et puis le troisième pôle, je vous l'ai dit, bah déjà au niveau ministériel, on ne sait pas trop à quoi il sert ce troisième pôle. Et donc, très souvent, il est pas pensé. Il est laissé à la libre appréciation des acteurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans un texte officiel, vous avez vu réinvestissement pédagogique, parce que quelqu'un s'est dit, bah oui, finalement, c'est tout le travail d'appropriation en classe après que l'expérience a eu lieu. Mais quand même, longtemps, on s'est contenté de supposer que voir plus faire égale interpréter, ce qui est tout à fait démenti par l'expérience tout à fait concrète. Alors, ces trois piliers sont-ils l'alpha et l'oméga de l'éducation artistique ? Je me permets de dire que non, que si un pilier manque, ce n'est pas grave, hein, que c'est pour ça que les chorales scolaires font pleinement partie de l'éducation artistique. C'est un moment de cristallisation de la pensée de l'action. Il faut le prendre pour ce que ça vaut, et ça a beaucoup de valeur parce que c'est une cristallisation de l'expérience dans un modèle, mais aussi pour ce que ça ne vaut pas, c'est-à-dire quelque chose qui serait vrai en soi et pour soi et de manière universelle. Lisez ou relisez la charte de 2016 du Haut Conseil de l'éducation artistique. Elle dit qu'il y a trois piliers, mais si vous lisez bien, il y a quatre piliers. Hein. Je les lis devant vous. La fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique, l'acquisition de connaissances. Bon, ben, il y a quatre piliers et ce n'est pas grave. Hein. Si vous regardez ailleurs, alors je vous donne un seul exemple à l'étranger qui date un peu. Hein. Il s'agit d'un programme de développement de l'éducation artistique qui avait été développé par la fondation Getty et qui distinguait quatre pôles. Et c'est très intéressant parce que ces quatre pôles n'ont pas grand-chose à voir avec nos trois piliers. Hein. Premier pôle, la pratique. Jusque-là, tout va bien. Deuxième pôle, l'histoire des arts. Vous voyez, on est un petit peu ailleurs. Troisième pôle, l'esthétique, c'est-à-dire les fondements de la philosophie esthétique. En fait, l'éducation artistique est une occasion de s'interroger avec les élèves sur l'art lui-même. C'est quoi la question de l'art ? Et le jugement d'appréciation esthétique, qu'on appelle aussi jugement critique, fait partie des quatre bases, hein, de l'éducation artistique. Alors, c'est intéressant parce que ça nous montre ce qu'il n'y a pas dans nos trois piliers. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas le jugement d'appréciation esthétique ou le jugement critique, qui est quelque chose dont ça fait bientôt 40 ans hein, que je fréquente différents milieux qui s'intéressent à l'éducation artistique et j'ai remarqué que c'est toujours ce qui est rejeté. Il y a toujours l'idée que l'art, c'est quelque chose à vivre et que ce n'est pas quelque chose à commenter.
Vous venez d'écouter Cas d'école, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dans un hors-série consacré aux rencontres de l'éducation artistique et culturelle de la Courneuve. Vous pouvez trouver toutes les références sur le site ife.ens-lyon.fr/cas d'école. À bientôt!